Vous écoutez, on lit pour vous.
Un chef autochtone réclame l'annulation des tirages des permis de chasse à l'orignal. Un texte de Graham Skavier-Freelich avec les informations d'Osten Chebakeget, paru le 24 juin 2025 sur Ici Manitoba. Le chef de la Nation Cree de Pimicikamak, David Monias, croit que le Manitoba devrait annuler son tirage au sort annuel des permis de chasse à l'orignal en raison des feux de forêt qui ont brûlé la plupart de l'habitat de l'animal. La province a déjà annoncé, en mai dernier, qu'elle allait approuver plus de 350 permis de chasse à l'orignal. Or, environ 9000 km² du territoire manitobain ont brûlé en date du 23 juin cette année. Beaucoup de ces orignaux ont soit migré ailleurs, soit fui ou soit péri dans l'incendie, a déclaré David Monias. Selon M. Monias, si la province refuse d'arrêter d'offrir de nouveaux permis, la Nation Cree saisira les tribunaux. En 2024, la Nation Cree de Pimicikamak a déjà intenté une action en justice contre la province sur ce type de permis. En effet, le gouvernement a pris la décision de supprimer 75 % des permis de chasse à l'orignal dans 4 des 62 régions de chasse dans la province. Deux de ces régions sont sur le territoire traditionnel de la Nation Cree. La province avait indiqué à sa défense que des parties des deux zones qui recoupent la Nation Cree Pimicikamak ont été réservées à l'usage exclusif des chasseurs autochtones. La province n'entend pas abandonner le tirage. Pour sa part, le ministre des Ressources naturelles et des Futurités autochtones, Ian Bushy, a affirmé que le plan de la province est bien justifié. Ian Bushy a indiqué que la province a obtenu des données très positives en évaluant l'état des populations d'orignaux dans les régions en question l'hiver dernier. Il affirme donc que la province ne suspendra pas les 350 permis de chasse à l'orignal, mais qu'elle était ouverte à discuter d'une voie à suivre avec la Nation Cree de Pimicikamak et d'autres dirigeants. De plus, la province évaluera les populations d'orignaux à la suite de la saison des feux de forêt, comme elle le fait régulièrement. En tant que personne autochtone, je sais que la priorité pour nous aussi est la subsistance, la viabilité et la durabilité à long terme de la population orignale, a-t-il dit. Une trahison des traités. De son côté, le grand chef de Manitoba, Kiwatinowi Okimakanak, Garrison SETI questionne si les données utilisées par la province donnent toujours un bon portrait de la situation, car beaucoup de terrain a brûlé depuis. D'après Garrison SETI, qui représente également plusieurs communautés autochtones, en prenant cette décision, la province ne fait pas preuve d'un désir de réconciliation. La décision du Manitoba de procéder à un tirage au sort de permis de chasse à l'orignal, malgré la dévastation causée par les incendies de forêt, sans transparence et sans obligation de rendre des comptes, constitue une violation directe de nos droits et une trahison des traités, lance M. SETI dans un communiqué de presse publié récemment. Notre peuple voit ses sources de nourriture disparaître alors que la province distribue des vignettes de chasse comme des prix, a-t-il ajouté. C'était « Un chef autochtone réclame l'annulation des tirages des permis de chasse à l'orignal ». Un texte de Graham Scavier Freelick avec les informations d'Osten Chebakeget, paru le 24 juin 2025 sur Ici Manitoba.
S'habiller pour le travail dans les friperies. Un texte de Maud Goyer, paru le 7 mai 2024 dans la presse. D'un côté, il y a des sites d'enfouissement remplis de vêtements et de l'autre, des consommateurs qui utilisent en moyenne 20 % de leur garde-robe. Il existe peut-être une solution. Favoriser l'économie circulaire en s'habillant dans les friperies. Même pour le boulot, c'est possible. Il y a tout ce qu'il faut dans les friperies. Jupes, vestons, tailleurs, chaussures, sacs à main, robes, indique Myriam Laroche, consultante senior en développement durable du textile et du vêtement. Le but serait qu'on utilise l'ensemble des vêtements qu'on a dans notre garde-robe, qu'on fasse passer le ratio de 20 % à 50 % et encore mieux, à 80 %. Madame Laroche a commencé sa carrière dans l'industrie de la mode il y a 30 ans et elle a consacré plus de la moitié de son parcours à l'aspect du développement durable. Elle rappelle que les quantités de textiles éliminés ont augmenté de plus de 80 % au cours des 10 dernières années et que pourtant, 95 % des textiles jetés sont revendables, réutilisables ou recyclables. C'est important de parler de surconsommation, mais aussi de surproduction, dont celle qui vient de la fast fashion, dit-elle. On ne le dit pas assez, l'industrie de la mode est responsable de 8 à 10 % des émissions mondiales de carbone, soit plus que les secteurs de l'aviation et du transport maritime réunis. Pièces vintage et troc. L'une des façons de lutter contre le fast fashion et ses effets désastreux pour la planète, c'est de réutiliser ce qui existe déjà. Stéphanie Robillard-Sarganis, une éducatrice spécialisée de 37 ans, a bien compris cet enjeu. Depuis 15 ans, elle achète presque exclusivement ses vêtements en friperie. Oui, ça prend de la patience, mais pour moi, c'est méditatif, confie la mère de deux enfants de 8 et 10 ans. Je mets mes écouteurs, je pars seule et je fouille. J'y vais régulièrement et ça me permet de trouver de belles pièces pour moi ou des trucs pour mes enfants à bas prix. Cette résidente de Saint-Eustache organise chaque année un grand troc annuel de vêtements. L'an passé, plus de 1000 morceaux ont été échangés entre les 60 participantes. C'est une bonne façon de renouveler sa garde-robe, souligne-t-elle. Le but n'est pas de regarnir, mais bien de prendre ce dont on a vraiment besoin. La maxime de Myriam Laroche est claire. Pour chaque article ajouté à la garde-robe, un doit sortir. Habituez-vous à faire de la place pour chaque nouvel item que vous achetez, conseille la cofondatrice de Collectif Détour, une agence de consultation spécialisée en développement durable. Profession, éco-styliste. Une autre solution existe pour les fashionistas qui éprouvent des remords écologiques. Faire affaire avec une éco-styliste. Paulandre Toussaint s'est spécialisée dans le stylisme et le magasinage personnalisé fait en friperie. Elle offre ses services depuis un an et la demande explose. Son modèle d'affaires, basé sur l'économie circulaire, attire l'attention. Madame Toussaint a remporté la semaine dernière le prix coup de cœur du gala du défi Ose entreprendre dans la catégorie développement durable. Depuis quelques mois, l'entrepreneur remarque une hausse de sa clientèle corporative. Avec l'inflation, le coût de la vie est cher, dit la Lavalloise de 31 ans. Mais les femmes veulent quand même bien s'habiller pour le travail, pour leurs événements, leurs 5 à 7 et toutes leurs occasions d'affaires. C'est là que mon service prend tout son sens. Elles n'ont pas à vivre le stress de magasiner. Elles ont conscience que c'est plus respectueux de l'environnement. Elles dépensent moins et de façon plus intelligente. Par exemple, pour un budget de 150 $, l'écostyliste trouvera une quinzaine de morceaux personnalisés selon les besoins de sa cliente. Cela n'inclut pas ses honoraires. De la qualité. Ultimement, son objectif est que ses clientes possèdent une garde-robe mieux pensée et plus pratique. Il ne faut pas acheter parce que ce n'est pas cher, glisse-t-elle. Cela irait à l'encontre de la mission. Je choisis des morceaux qui sont de qualité, qui vont avec le style de la cliente et qui font partie des pièces dont elle a besoin pour créer ou compléter un look. Selon Myriam Laroche, un préjugé tenace retient parfois les gens de magasiner et d'acheter en friperie. La malpropreté des vêtements. Il faut se rappeler que la majorité des gens lavent leurs vêtements avant de les donner, dit-elle. Si vous êtes dédaigneux, commencez par un accessoire comme un sac à main ou une ceinture. Mon constat, les économies réalisées et les compliments reçus effacent les préjugés. En savoir plus, le terme « fast fashion » ou « mode éphémère » a été inventé par le New York Times dans les années 1990. Il décrit la rapidité avec laquelle les détaillants font passer les vêtements de l'étape de la conception à celle de la vente en magasin. C'était « S'habiller pour le travail dans les friperies », un texte de Maude Goyer paru le 7 mai 2024 dans La Presse.
Un projet de reboisement à Chibougamau pour rendre les forêts plus résilientes à la suite de feux, un texte d'Alexis Riopel, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir. Dès que les braises des feux de forêt historiques de 2023 ont commencé à refroidir, une crainte s'est allumée dans l'esprit des gens du milieu forestier. Les zones affectées arriveront-elles à bien se régénérer? La forêt boréale québécoise est dominée par l'épinette noire. Or, ce conifère, qui peut vivre plus de 2 siècles, nécessite environ 50 ans pour arriver à maturité sexuelle. Si bien que, quand de jeunes épinettes meurent sous les flammes, aucune cocotte n'est prête pour enfanter la génération suivante. À cause des changements climatiques, les feux de forêt deviennent plus menaçants. Nous faisons donc face à un problème accru de régénération des épinettes noires. En conséquence, il faut changer notre manière de procéder au reboisement, affirme Sarah Scarano, une doctorante en sciences de l'environnement à l'Université du Québec, à Chicoutimi. La jeune chercheuse italienne, qui rêvait de vivre et d'étudier au Canada, participe à un projet de recherche dans la région de Chibougamau pour trouver une solution en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des forêts, MRNF, du Québec. Un projet à portée opérationnelle. Traditionnellement, ce sont les épinettes noires qu'on replante en forêt publique dans le nord du Québec. Le projet de Mme Scarano consiste à ajouter du pin gris et du mélèze larricin qui arrivent à maturité sexuelle après aussi peu que 10 ans, ce qui pourrait rendre les plantations plus résilientes au feu. De telles tentatives sont essentielles. En raison des effets cumulés des coupes de bois et des incendies, les forêts québécoises rajeunissent. De vastes étendues de taïga sont vulnérables aux accidents de régénération qui permettent aux éricacées et aux lichens de s'imposer sur le territoire au détriment des forêts naturelles. Pour démarrer son projet de recherche, en 2024, Mme Scarano s'est rendue au nord de Chibougamau, sur une parcelle frappée par les feux de forêt un an plus tôt, en 2023, et dont les arbres calcinés avaient fait l'objet d'une coupe à blanc. Sous son œil, les planteurs ont établi différentes combinaisons des trois essences, épinette noire, pin gris, mélèze laricin, sur cinq sections de 8 hectares. La scientifique y retournera à l'été 2025 pour jauger la croissance des arbres, mesurer leur potentiel hydrique, caractériser leur feuillage et analyser les sols, entre autres choses. Nous voulons comprendre comment le micro-site va influencer la croissance et la survie des jeunes pousses. Nous tâcherons de voir s'il y a de la compétition entre les arbres des différentes espèces ou plutôt une cohabitation mutuellement bénéfique, explique-t-elle. Des résultats préliminaires seront publiés en 2026. Puis, le ministère entend faire un suivi à long terme. Dans une quinzaine d'années, on pourra évaluer si la plantation est suffisamment mature pour résister à un nouvel incendie, précise François Hébert, le chercheur du MRNF qui pilote le projet à Chibougamau. C'est un projet à portée opérationnelle, conçu pour pouvoir s'intégrer aux pratiques actuelles de l'industrie, explique M. Hébert, un spécialiste de la sylviculture d'adaptation. L'industrie forestière recherche l'épinette noire, un bois solide, idéal pour la construction. Elle aime aussi le pin gris, qui répond aux mêmes besoins. Le mélèze laricin est cependant moins récolté et moins replanté. Mais des études suggèrent qu'il pourrait faire un bon compagnon à l'épinette noire. Avec les connaissances qui émergeront de sa thèse, Mme Scarano espère donner des outils à l'industrie forestière du Québec pour améliorer ses pratiques, compte tenu de l'accélération du régime des feux. Tout le monde devra y mettre de la bonne volonté, car les habitudes des entreprises de reboisement sont profondément ancrées. Chaque année, on plante plus de 100 millions d'arbres en forêt publique au Québec. Selon la commissaire au développement durable, le MRNF doit rapidement adapter ses interventions sylvicoles pour rendre la forêt plus résiliente aux changements climatiques. Rappelons qu'en 2023, les feux ont ravagé plus de 5 millions d'hectares, une superficie équivalente à toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'était un projet de reboisement à Chibougamau pour rendre les forêts plus résilientes à la suite de feux, un texte d'Alexis Riopel, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir.
Aux États-Unis, Trump inquiète les personnes LGBTQ+. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. Il va sans dire que le retour au pouvoir du président Donald Trump a chamboulé les États-Unis, et ce, à de nombreux égards. Les enjeux LGBTQ+, et plus particulièrement les questions trans et la promotion de l'idéologie de genre, figurent parmi les chevaux de bataille de l'administration du président. Avocate et directrice de la section des politiques fédérales du Williams Institute, sur le droit et les politiques publiques en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre, de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, Elana Redfield est de ceux qui élèvent leur voix pour dénoncer les mesures prises par leur président. Comment résumeriez-vous la situation aux États-Unis concernant les personnes LGBTQ+? Depuis l'investiture du président Trump en janvier, il y a un sentiment grandissant de peur et d'incertitude parmi les personnes LGBTQ. L'administration a inclus dans son programme un certain nombre d'objectifs philosophiques qui affectent directement et à bien des égards cible les vies des LGBTQ. Alors que, par le passé, les personnes LGBTQ aux États-Unis souffraient d'un manque de soutien ou de protection, nous avons aujourd'hui une administration qui dit explicitement « Nous allons supprimer les protections » ou « Nous allons défaire les choses qui se sont produites auparavant ». Cela est évident dans tous les domaines de notre gouvernement et dans de nombreux États également. Trouvez-vous que la seconde administration Trump est différente de la première? La deuxième administration Trump n'a pas la même saveur que la première. Cela s'explique en partie par le fait que, pendant la première administration Trump, ils ont testé des idées qu'ils n'ont jamais vraiment pu mettre en œuvre jusqu'à présent. L'autre raison est que cette administration se caractérise par des remises en cause directes de notre système de gouvernement. C'est quelque chose d'un peu différent. On peut avancer que le 6 janvier 2021 a été un premier indicateur de la volonté du président Trump de remettre en question notre système de gouvernement, et cela s'est bien sûr produit à la fin de sa première administration. Aujourd'hui, nous voyons des relations complètement différentes avec les diverses composantes qui rendent notre gouvernement fonctionnel. L'approche de l'administration Trump face aux minorités de genre semble différente de celle à l'égard des minorités d'orientation sexuelle. Qu'en pensez-vous? La politique fait une distinction entre les personnes LGB ou les couples de même sexe et les personnes transgenres, non-binaires et intersexes, et c'est dans les décrets du président que cette distinction est la plus claire. Ainsi, dès le premier jour, le président a publié un décret qui disait essentiellement que, pour les besoins de son administration, il n'allait reconnaître que deux sexes, que ces sexes étaient définis au moment de la conception et qu'ils ne pouvaient pas être modifiés, et qu'il attendait de toutes les agences fédérales qu'elles agissent en fonction de cette interprétation. Cette loi a eu des conséquences immédiates pour les personnes transgenres, notamment des restrictions à la participation au sport et des changements dans les politiques d'identification. Les États-Unis avaient l'habitude de reconnaître un troisième genre sur les passeports pour les personnes non-binaires et intersexes. Ils ont retiré cette reconnaissance et tentent à présent de réviser ces passeports qui comportent un troisième genre. Cela a également un impact sur les soins de santé et les toilettes. Elle a des répercussions sur la collecte de données. D'une manière un peu plus discrète, l'administration cible également les personnes LGB. Cela se traduit en partie par le fait que les efforts liés à l'exécutif ont supprimé des tonnes de recherches, ainsi que des subventions de recherche et des universités qui étudient les familles LGBT et les expériences LGBT. Cela est également lié à l'opposition politique du président à ce qu'il appelle la DEI, diversité, équité et inclusion, ou, essentiellement, à toute forme de reconnaissance des expériences identitaires qui pourraient différer de la culture communautaire dominante. Comment les mesures de l'administration Trump se font-elles sentir au niveau académique et universitaire? Il y a eu un énorme changement dans tous les milieux universitaires, une incertitude sur la façon d'aller de l'avant pour étudier les questions LGBT ou pour être inclusif ou créer un environnement d'apprentissage inclusif, et cela est dû à cette combinaison de décrets et d'actions du gouvernement fédéral. Tout d'abord, le décret sur la définition du sexe. Ce décret stipule que les fonds fédéraux ne seront pas autorisés à promouvoir ce qu'ils appellent l'idéologie du genre. Et cette idéologie du genre fait référence à l'existence des personnes transgenres. Il y a également l'arrêté anti-DEI qui stipule que les universités ne soutiendront aucune initiative utilisant des termes tels que « privilège » ou « oppression » ou parlant de « marginalisations historiques ». La combinaison de ces deux éléments fait que les universités sont très durement touchées. Les mesures du président Trump sont-elles, selon vous, un reflet d'opinion partagée par une majorité d'Américains? Les sondages d'opinion montrent que les gens sont généralement favorables à la non-discrimination, Mais lorsqu'il s'agit de politiques spécifiques, je pense que les gens ne savent pas vraiment comment répondre aux questions. Les résultats varient donc en fonction de la politique. Nous sommes actuellement dans une période où l'on parle de manière disproportionnée des personnes transgenres. Les personnes transgenres ne représentent qu'un faible pourcentage de la population américaine, mais elles occupent tellement de terrain au niveau fédéral et au niveau des États dans tout le pays. Cela donne l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce n'est le cas. Je pense donc qu'il est important de réfléchir à la place que les opposants à l'inclusion des transgenres accordent à cette question. Je pense qu'elle est très différente des Américains, qui ne pensent probablement pas aux expériences des transgenres autant qu'à l'inflation, au coût du logement ou aux soins de santé dont ils ont besoin. Êtes-vous optimiste quant aux conditions des personnes LGBTQ+ aux États-Unis? J'ai beaucoup à dire à ce sujet. En ce moment même, notre Constitution et notre système de gouvernement sont mis à l'épreuve. Nous verrons si ces systèmes fonctionneront ou non pour protéger les groupes minoritaires vulnérables, et cela concerne également toute personne appartenant à un groupe minoritaire aux États-Unis, qu'il s'agisse d'immigrants ou de minorités visibles, d'autochtones, de personnes handicapées. Tous les groupes différents se voient dire que non seulement les programmes qui les soutiennent seront supprimés, mais qu'ils n'ont pas le droit de parler de leurs expériences, de parler d'intersectionnalité et de parler de ce qui donne un sens à leur vie, de ce qui la rend joyeuse et dynamique. Je pense donc que cela a un impact négatif. Cela dit, dans beaucoup de ces cas, l'administration est en train de perdre. Elle tente quelque chose, puis quelqu'un intente une action en justice et le tribunal dit « Non, vous ne pouvez pas faire ce que vous essayez de faire ». Il y a donc des raisons d'espérer. Je ne suis pas irréaliste. Les LGBTQ ne vont pas nécessairement gagner toutes les batailles, mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. En bref, je pense que les personnes LGBTQ aux États-Unis doivent attendre et voir ce qui se passe, et bien sûr sont très actives pour essayer d'exprimer leur mécontentement et le changement qu'elles veulent voir. C'était « Aux États-Unis, Trump inquiète les personnes LGBTQ+. » Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue.